C'est ce que j'appelle le désir en réalité. Le besoin est une chose, le désir est autre chose. On peut dire que les limaces, les babouins et les cochons ont des besoins. Et nous partageons avec eux des besoins. Le cochon a des besoins très proches des nôtres, d'ailleurs.
Hein, il est omnivore.
Physiologique, il est omnivore. On peut greffer un cœur de porc sur un homme, etc. Enfin, il a. Bon. Je pense quand même que nous avons une différence assez essentielle avec le cochon. J'espère. J'y crois beaucoup, personnellement. Et je pense que nous avons des désirs à la différence du cochon. C'est-à-dire que nous nous attachons à des êtres en tant qu'ils ont des singularités qui nous affectent. Quand je dis êtres, c'est des êtres humains, mais ça peut être aussi des objets, ça peut être des œuvres d'art, ça peut être des idées, ça peut être des idéaux, ça peut être des pratiques, le football, par exemple, etc.
Ça peut être un pays. Ça a été longtemps des pays.
Ça peut être la France, par exemple. Ouais. Et ça peut être une religion, ça peut être toutes sortes de choses. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qu'il ne faut pas confondre avec la subsistance. Et puis, il y a un troisième plan. C'est ce que j'appelle le plan des consistances. Parce que le plan des existences, comme son nom l'indique, ça désigne des choses qui sont dans le monde, qui existent, autrement dit. Or, si elles existent, elles peuvent être soumises à toutes les règles de ce que, depuis Newton, on appelle la physique mathématique, finalement. Elles sont calculables. Elles sont observables chimiquement, physiquement, mathématiquement, etc. Et donc, elles peuvent être soumises intégralement à une description calculée, à une formalisation par le calcul. Parce qu'elles existent. Mais il y a des choses dans nos existences qui n'existent pas. Et qui sont peut-être plus importantes que ce qui existe. Je veux dire par là que si on pose, ce qui est mon cas, que tout ce qui existe est calculable, alors ce qui n'est pas calculable, on ne peut pas dire que ça existe à proprement parler. Le philosophe Kant, dont je parlais tout à l'heure, a posé que ce qu'il appelle le jugement de goût, c'est-à-dire ce qui nous permet de dire j'aime ou je n'aime pas une œuvre d'art, par exemple, ou un paysage, ou un visage, ou un jugement esthétique. C'est un jugement que je peux poser subjectivement en disant il a une valeur universelle, parce que si je dis de quelque chose que c'est beau, je pense que tout le monde doit le trouver beau. Si j'aime les tomates, je pense pas que tout le monde doit aimer les tomates. Donc quand il dit ça, c'est un jugement de l'agréable. Mais le jugement du beau, si je trouve par exemple qu'une femme est belle, je ne comprendrai pas que les autres ne la trouvent pas belle. Mais je sais en fait que beaucoup de gens ne la trouveront pas belle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je sais que je la trouve belle, je sais que pour que je puisse la trouver belle, il faut que je pose a priori que mon jugement doit être universel, mais je sais qu'en réalité il ne l'est pas, que donc je peux pas démontrer mon jugement, que je ne peux pas le calculer, et autrement dit, le beau n'est pas démontrable, il n'est pas de l'ordre de la calculabilité, il est sur un autre plan que le plan de l'existence. Ça, c'est ce que j'appelle les consistances. Alors, Dieu, par exemple, c'est une consistance pour moi.
Vous avez décrit le beau, Bernard Stiegler, mais le bien, c'est pareil.
C'est exactement pareil. Le bien, que je pense, moi, plutôt à partir de la justice, d'abord, parce que je me réfère toujours à la Grèce, la philosophie est née en Grèce, et je pense qu'il faut toujours essayer de rapporter les questions à la manière dont les Grecs les pensaient. Ça ne veut pas dire qu'il faut le penser comme les Grecs, mais il faut toujours se faire une histoire de la pensée depuis les Grecs pour comprendre d'où vient notre mode de pensée. Parce qu'en fait, nous sommes des judéo-grecs, nous les occidentaux, en tout cas. Et le monde aujourd'hui entier hérite de la pensée judéo-grecque, même en Chine maintenant, à travers la technologie. Je pense que la question du bien, en fait, pour moi, c'est d'abord la question de la justice. Et bien entendu, la justice, nous le savons, n'existe pas. Si on dit que la justice, c'est la justice réalisée, la justice n'existe pas. En venant, j'ai vu plusieurs personnes qui dorment sur le trottoir. En ressortant, je vais en trouver d'autres. Au pont, juste à côté des Invalides, quelqu'un a fait la manche à ma voiture. Bon, et malheureusement, la justice règne sur le monde. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de comprendre comment se fait-il que, bien que l'injustice règne sur le monde, nous posions que nous devons nous battre pour la justice, qu'elle n'existe pas, mais que nous y tenons. Nous tenons à des choses qui n'existent pas. Eh bien, les philosophes, aujourd'hui, pour moi, ce sont des gens qui essayent de comprendre la différence entre ces trois plans, la subsistance, l'existence et la consistance, et qui essayent de faire qu'un plan n'écrase pas l'autre. Parce qu'il est tout à fait possible d'écraser un plan par l'autre. Si, par exemple, vous avez des gens qui n'ont aucune satisfaction de leurs besoins élémentaires, ils se comportent comme des porcs. Parce qu'ils ne peuvent plus du tout accéder à la dignité d'une existence. C'est ce qui arrive dans certaines conditions extrêmes, dans les prisons, dans des camps de concentration, dans des lieux abominables de bidonville où les gens ont des conditions de vie absolument atroces, où ils se comportent comme entre eux. C'est rare d'ailleurs, hein, parce que c'est très rare que l'homme tombe vraiment à ce niveau-là. Mais ça arrive, et ça arrive quand on ne satisfait pas, je dirais, l'économie de la subsistance. La dignité de l'homme passe par la compréhension, par le l'accès à une existence. Maintenant, cet accès à une existence suppose la possibilité de viser des consistances. Donc les trois plans sont tous liés. Une des choses qui me préoccupe beaucoup à notre époque, c'est que pour des raisons qui sont liées à ce qu'un philosophe allemand, Max Weber, a décrit comme ce qu'il a appelé le processus de désenchantement du monde et le développement de ce qu'il a appelé la rationalisation du monde, c'est-à-dire l'application de la calculabilité à toute chose du monde, eh bien nous en sommes arrivés à détruire l'accès aux consistances et finalement à réduire progressivement les existences à des comportements de subsistance, c'est-à-dire au règne de la consommation pure et simple.
Effectivement, Bernard Stiegler, que ce soit dans Réenchanter le monde, donc qui est une allusion à ce que vous venez de nous dire sur Max Weber, c'était votre livre précédent, comme dans celui que vous venez de publier, La télécratie contre la démocratie, vous nous dites que nous sommes devenus des consommateurs. Alors pour vous, on a deux ennemis. C'est le premier, c'est le populisme industriel, et le second, mais qui en découle, c'est la télécratie. Alors qu'est-ce que c'est que le populisme industriel qui, pour vous, est apparu depuis une vingtaine d'années?
Le populisme industriel, c'est une dégradation du fonctionnement des industries culturelles, en particulier de la télévision. Industries culturelles sont apparues au XXe siècle, aux États-Unis principalement. Elles sont apparues aussi en Europe, bien sûr, elles sont même nées en Europe, mais c'est l'Amérique du Nord surtout qui les a développées, qui les a mises au cœur de son propre développement.
C'est le cinéma, d'abord.
C'est d'abord le cinéma, c'est très vite la radio, 1920, la première radio, la première station civile américaine. Et puis ensuite, c'est évidemment la télévision. Ces technologies de communication qui ont donné ces industries culturelles, elles ont été mises en œuvre pour résoudre un problème que le capitalisme a rencontré à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, qui était la surproduction. Le capitalisme a un problème endémique. C'est qu'il a toujours tendance à, en augmentant ses gains de productivité, comment dire, à créer un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et régulièrement, il entre en crise. Il y a eu la fameuse crise de 1929, qui était la plus célèbre et la plus frappante, mais il y en a eu beaucoup d'autres, moins visibles. Et dans ces crises, qui se résolvent parfois par des guerres, d'ailleurs, la guerre de 1914 est clairement une solution à une crise du capitalisme, une solution quand même qui était abominablement coûteuse, hein, pour les êtres humains, en Europe en tout cas. Le capitalisme se retrouve donc dans une situation de surproduction où il n'arrive plus à écouler les marchandises qu'il produit. Alors, ça, l'Amérique du Nord, on a très tôt pris conscience, surtout qu'elle est, c'est un pays qui a été un dynamisme économique absolument sans précédent, hein, sans comparaison. Et un certain nombre de personnalités très importantes des États-Unis, parmi l'une d'entre elles est très connue, s'appelle Henry Ford, le fondateur de Ford, qui est en train en ce moment de se casser la figure, d'ailleurs,
Vous parlez de
de
l'entreprise.
l'entreprise Ford. Et un autre qui est beaucoup moins connu, qui est même presque un personnage complètement occulte, qui s'appelle Edward Bernays, qui était le neveu de Sigmund Freud, ont compris que le grand problème du capitalisme, c'était de capter l'attention des consommateurs pour les obliger à consommer des marchandises que spontanément ils n'avaient pas envie de consommer. Je vais vous donner un exemple. Peut-être que vous savez que le CNET, c'est-à-dire le Centre National d'Études des Télécommunications, d'ici les Moulineaux, a mis au point la norme GSM, c'est-à-dire la norme des téléphones mobiles, qui est aujourd'hui utilisée dans le monde entier. Eh bien, France Télécom a fait faire une étude de marché pour savoir si le téléphone portable avait de l'avenir. Et la réponse a été non. Ça
C'était à quelle
n'intéressait.
époque, à ce
C'était
moment-là?
dans les années 90, au début des années 90, avant 95 en tout cas. La réponse a été non, et donc France Télécom a décidé de ne pas exploiter la norme GSM. Et Nokia, ce pays qui est la Finlande, qui a rebondi après la chute de l'URSS, qui a essayé d'inventer un nouveau modèle industriel, a cru beaucoup à ça, et a évidemment a développé la fortune de la Finlande, entre autres choses, à travers le téléphone portable. Ce que je veux dire en donnant cet exemple, qui donne beaucoup à réfléchir sur ce que c'est que le marketing et ses limites quand même, hein, c'est que les gens spontanément ne veulent pas ce qu'on leur propose. Pour qu'ils l'adoptent, il faut faire de la publicité, il faut faire des campagnes de marketing, etc., etc. Et il faut capter leur libido, ce que Freud a appelé leur libido, ce qui est le nom un peu savant de ce qu'on appelle généralement le désir. Et cette libido, normalement, elle se porte sur un certain nombre d'objets dans les sociétés, appelons-les traditionnelles ou classiques, que sont les parents. En principe, un enfant aime ses parents et ses parents le lui rendent bien. Les camarades, les proches, l'école, la nation, toutes sortes d'objets, les œuvres d'art, les pratiques culturelles, sportives et autres, toutes sortes d'objets qui sont des objets dignes d'attention, qui permettent de développer une existence et donner accès à des consistances, justement. La beauté du sport, qui n'existe pas, qui est une idéalité, etc., etc. La beauté des œuvres d'art, la justice, enfin, toutes ces choses dont nous parlions tout à l'heure, et l'amour pour ses parents, ou l'amour qui est en principe infini.
L'amour pour sa femme aussi,
Pour
ou
sa
pour son
femme,
mari, c'est la même
pour son
chose.
mari, bien sûr. Un amour qui ne se poserait pas comme infini, un amour qui serait mesuré et quantifié ne serait plus un amour. Si vous aimez quelqu'un, vous l'aimez à mort, comme on dit. Roméo et Juliette, c'est l'allégorie du fait qu'il n'y a pas d'autre amour que d'amour à mort. Un amour véritable, vous vous jetez dans les flammes pour votre amour. Vous vous battez à mort pour la patrie, l'amour de la patrie. Une question qui intéresse M. Sarkozy, ça. Si on n'aime pas la France, dit-il, il faut la quitter. Il en a parlé récemment. Moi,
C'était
j'ai.
un slogan américain, America love it or leave it.
Absolument, absolument. Mais j'en parle parce que je m'intéresse dans ce livre, La télécratie contre la démocratie, à ce que j'appelle le désamour actuel. Il se trouve que j'ai été extrêmement frappé il y a quelques années. Pas très longtemps, 2 ou 3 ans, que Claude Lévi-Strauss s'est déclaré sur une chaîne de télévision qu'il s'apprêtait à quitter un monde qu'il n'aime plus.
Claude Lévi-Strauss, qui est
Claude Lévi-Strauss.
un grand ethnologue,
On
anthropologue.
peut considérer qu'il est le plus grand anthropologue vivant, qui est connu dans le monde entier et considéré comme, je pense, le père de l'anthropologie, même, l'anthropologie moderne en tout cas. Claude Lévi-Strauss, qui a étudié les hommes du monde entier, qui a passé des années avec les Ngambi-Kwara dans les forêts d'Amazonie, enfin, qui est un homme qui aime les hommes, plus que n'importe quoi, c'était son objet. Il en est venu à dire qu'il s'apprêtait à quitter, il est très âgé maintenant, il approche des 100 ans, il s'apprêtait à quitter un monde qu'il n'aime plus. Et beaucoup de gens tiennent une déclaration de ce type, des bons Français, pas
Donc c'est pour
des.
ça que, à votre avis, Nicolas Sarkozy dit la France aimez là ou quittez là. Il veut nous rendre
Non.
à cet amour qu'on devrait avoir pour le pays.
Je pense que Nicolas Sarkozy, comme Madame Royal d'ailleurs, comme peut-être certains d'autres, mais surtout Madame Royal, Monsieur Sarkozy, s'adresse à la souffrance de l'amour des Français,
À son absence,
à
donc.
son absence, et au fait que les êtres humains ne peuvent pas vivre sans amour, c'est pas possible. Mais en même temps, au fait que nous vivons dans une société qui détruit l'amour. Pourquoi? Parce que détourner la libido qui normalement se porte sur votre épouse, sur vos parents, sur vos enfants, sur vos objets. Libido, faut le prendre en un sens sublime, hein,
Oui, ou sur
c'est-à-dire
votre
c'est
patrie.
l'amitié, c'est l'affection, c'est l'attachement sous toutes ses formes. Entièrement canalisé par la marchandise, ça détruit la société. Pourquoi? Parce que le philosophe Aristote dit très très clairement, dans l'Éthique à Nicomaque, c'est la condition d'une cité, c'est la philia. Alors qu'est-ce que c'est que la philia? Eh bien, philia, c'est le substantif du verbe philein en grec qui veut dire aimer. Une société dans laquelle nous ne nous aimons pas les uns les autres, et c'est pas dans un sens forcément chrétien qu'il faut l'entendre, évidemment, Aristote, c'est 4 siècles avant le Christ, hein, mais en un sens où il doit y avoir des liens affectifs entre les individus qui composent une collectivité, un ensemble social. Une société où ce lien se détruit, c'est une société qui est en train de se détruire. Précisément, je me suis aussi intéressé à un horrible fait divers, donc évidemment les auditeurs d'Europe 1 ont forcément entendu parler, sur Europe 1 ou ailleurs, qui est l'assassinat qui a eu lieu l'année dernière de Ilan Halimi. Un jeune homme qui a été séquestré, torturé à mort, dans la banlieue parisienne, dans une cave de HLM. Ilan Halimi a été assassiné de manière diabolique, abominable, par des malfrats qui sont en fait des malfrats qui sont en même temps des pauvres crétins d'adolescents de la banlieue parisienne.
S'appelait le gang des barbares, je
Le
crois.
gang des barbares. Et je me suis intéressé à des déclarations du procureur Jean-Claude Martin, qui, après les avoir vus, au moment où certains, les quatre, quatre d'entre eux ont été arrêtés, a dit qu'il avait rencontré le degré zéro de la pensée.